France Inter. Laetitia Gaillet. Le 5-7.
À 6h20, bonjour Hugo Micheron.
Bonjour.
Hugo Micheron, chercheur à l'École Normale Supérieure, spécialiste du djihadisme. Paris d'y étudier toutes les options, y compris le rapatriement de combattants, des djihadistes en France, détenus en Syrie. Les mots ont un sens, Hugo Micheron. Est-ce qu'on doit les rapatrier ?
Est-ce qu'on peut, en l'état, faire autrement ? C'est ça la question qui est posée, puisque si on se la repose ce matin, c'est notamment à cause du retrait, de l'annonce du retrait américain dans le nord-est de la Syrie, qui rabat toutes les cartes et qui réactive cette question qui était latente depuis la fin 2016, qui est qu'est-ce qu'on fait des Français djihadistes détenus sur place aux mains des forces kurdes. Avec le retrait américain, les Kurdes vont devoir se trouver de nouveaux alliés dans la région et donc menacent de libérer les djihadistes français. Donc plutôt que de les voir partir dans la nature, s'égarer à nouveau au Moyen-Orient, a-t-on le choix que de les rapatrier? Autre choix que de les rapatrier en France, c'est de devoir gérer nous-mêmes le problème plutôt que, et c'est vraiment le risque, de les voir filer aux mains des Russes, des Iraniens, des Syriens, qui pourraient ensuite les utiliser comme monnaie d'échange contre des dans des négociations politiques avec la France.
Il y a vraiment une urgence selon vous, Hugo Micheron ?
Il n'y a pas d'urgence. Enfin, le rapatriement des Français, c'est évidemment la dernière chose que souhaite Paris. La logique depuis la défaite de Daesh dans le nord de la Syrie depuis 2016, c'est de ne pas les rapatrier. C'est d'être jugé là-bas par les Irakiens lorsqu'ils sont ou les Syriens lorsqu'ils sont détenus par eux. Donc, ça veut dire en fait qu'ils doivent écoper de peine très importante, hein. Concrètement, c'est ça que ça veut dire, voire de la peine de mort, ou alors de faire en sorte qu'ils disparaissent sur place pour ce qui est des hommes combattants. C'était la logique, si vous voulez, sous-jacente, évoquée par la ministre de la Défense.
Mais là où ils sont dans un endroit où il n'y a pas, c'est pas un pays, les Kurdes de Syrie, donc là, c'est difficile aussi de les juger.
Oui, absolument. En fait, à l'heure actuelle, la Syrie est divisée en trois, pour le faire très simplement, de façon un peu schématique. Vous avez au nord-ouest une zone qui est occupée par les Turcs, suite à leur opération contre Daesh. Donc, ils occupent une partie du nord-ouest syrien. Vous avez au nord-est une partie de la Syrie qui est aux mains des forces démocratiques syriennes, donc les forces arabo-kurdes, qui ont été soutenues par la coalition internationale. C'est là où étaient basées les forces américaines. Et puis, vous avez dans le reste du pays, donc au sud, le régime de Bachar al-Assad, soutenu par les Iraniens et les Russes. Dans ce cadre-là, les 130 dont on parle sont aux mains des forces démocratiques syriennes, donc dans le nord-est syrien. Mais ça ne tient pas compte des autres djihadistes français qui peuvent être éparpillés en Irak, dans les territoires du nord-ouest syrien contrôlés par les Turcs, etc. Donc, on ne parle pas de tous les djihadistes français sur zone. On parle de ceux qui sont détenus aux mains des forces démocratiques syriennes.
On donne un premier chiffre, 130, et à l'intérieur, on savait qu'il y a des enfants, on a rapatrié des enfants. Là, pour la première fois, on parle d'hommes, de combattants. Ça, c'est une nouveauté aussi.
Oui, absolument, parce que on a déjà du mal à établir le nombre exact de Français encore sur zone. Il y a eu énormément de morts, évidemment. Les djihadistes sont pour la plupart morts au combat. Les autres ont fui, puisque Daesh a perdu. Hein, il n'y a plus d'entité territoriale. Donc, les hommes notamment ont fui. Ils ont laissé femmes et enfants, hein, contrairement à ce qu'ils prétendaient dans leur propagande. Et donc, jusqu'à maintenant, la plupart des détenus étaient des femmes. Et des enfants mineurs, dont un certain nombre qui sont nés sur place. Effectivement, là, dans les 130, donc chiffre qui reste à confirmer par ailleurs, il y aurait également des hommes combattants qui seraient détenus par les Kurdes.
Donc, on connaît leur profil ?
Écoutez, si on se fie au profil du djihadiste lambda, ce sont des individus qui sont restés jusqu'au bout. Donc ce sont plutôt des téméraires, des individus qui ont connu la défaite de l'EI, qui ne sont pas rentrés malgré ça. Donc on parle là de profils a priori très endurcis.
Et si on les rapatrie, si on les ramène en France, est-ce qu'on peut les juger ? Est-ce qu'on en a les moyens, en fait ? Parce qu'il y a aussi une charge de la preuve aussi dans le droit français.
Oui, c'est toute la question, en fait, du jugement des djihadistes depuis 2012. C'est-à-dire que parfois, alors qu'il y a assez peu de doutes sur leurs activités sur place, sur la pratique d'exactions, etc., il n'y a pas toujours les preuves juridiques. Parfois, les juges doivent se contenter de photos, certaines déclarations, mais sans forcément avoir pu documenter ce qui s'est passé en Syrie entre 2012 et 2017. Et pour cause, ils étaient au sein d'une organisation djihadiste. Donc, les preuves matérielles suffisent généralement à des condamnations, mais pas toujours à la juste peine. Si vous voulez, parmi les individus que j'ai rencontrés en détention, il y a des profils très très endurcis qui ont écopé de peines plutôt clémentes parce qu'ils ont été condamnés avant le 13 novembre 2015 et qui a priori étaient des profils plutôt endurcis. Et à l'inverse, des individus condamnés après le 13 novembre qui ont écopé de peines relativement sévères sans qu'il y ait beaucoup plus d'éléments matériels dans leur dossier.
Et l'autre question, c'est comment on les emprisonne ? On sait que les prisons sont... Il y a une surpopulation carcérale. Comment on les emprisonne, ces personnes-là ? Comme Salah Abdeslam, on peut faire ça ?
Non, c'est une question extrêmement problématique, puisque vous l'avez mentionné, les prisons françaises ne sont pas extensibles. À l'heure actuelle, le contexte de surpopulation carcérale est extrêmement préoccupant dans les maisons d'arrêt. Donc depuis l'automne 2016, le gouvernement français a établi un nouveau programme de prise en charge après les fameuses unités dédiées, et donc qui consiste à couper au maximum du reste de la détention ordinaire, c'est-à-dire du reste des autres prisonniers, pour éviter les phénomènes de contagion djihadiste. Ça, c'est la priorité du gouvernement. Après, c'est 130, si on parle de 130 rapatriements, ça va être effectivement un problème important à gérer. C'est pas du tout anodin, c'est pas un chiffre anodin. On parle de 500 djihadistes au total français incarcérés dans les détentions. Donc vous voyez bien, si on en rajoute 130, ça fait quand même un nombre important.
Et la France est préparée à ça ?
La question du retour des djihadistes, de toute façon, se pose depuis les départs, si j'ose dire. Depuis notamment la défaite de Daesh à la fin 2016, à partir du moment où on a acté la défaite militaire, la question des retours s'est posée. À l'époque, on parlait de retour en masse. Ces retours en masse n'ont pas eu lieu. Là, la question se réactive, donc du fait de ce retrait américain, on va devoir gérer, on se rappelle finalement que ces djihadistes sont français et qu'il vaut mieux les gérer nous plutôt que les voir disparaître dans la nature.
Oui, il y a la phrase de Christophe Castaner, ils sont français avant d'être djihadistes, ça a aussi un sens, mais est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, c'est une
justification. Ça suscite des critiques, quand même.
C'est une justification politique d'une décision qu'on est forcé à prendre. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces djihadistes, en fait, sont devenus des monnaies d'échange. À l'heure actuelle, ils sont quasiment tous captifs. Donc, le problème, c'est si on a des djihadistes qui sont aux mains du régime de Bachar al-Assad et que Bachar al-Assad menace de les libérer, de les relâcher dans la nature, de les remettre sur la route de l'Europe, si jamais la France s'oppose à la Syrie sur tel ou tel sujet. Donc, le cauchemar, si vous voulez, pour Paris, c'est d'avoir des djihadistes de retour de Syrie qui sont perdus dans la nature. Donc la logique du gouvernement, c'est de dire qu'il vaut mieux les rapatrier plutôt que de les voir disparaître.
Alors, on les rapatrie, on les juge, on les emprisonne. Est-ce que ces personnes-là sont réinsérables dans la société française ?
C'est extrêmement compliqué. Ça sous-entendrait que la déradicalisation existe. De mon expérience, donc j'en ai rencontré 80 en détention, j'ai pas vu beaucoup de repentis. C'est-à-dire que Daesh, en tant qu'organisation, a été battu, mais on n'en a pas fini avec le djihadisme. Donc la question, c'est de savoir justement qu'est-ce qui a fait qu'on a eu 2000 Français impliqués dans les réseaux syriens entre 2012 et 2017, et comment va évoluer ce djihadisme à l'ère post-Daesh. Ça, à l'heure actuelle, c'est la question.
Merci beaucoup Hugo Micheron, chercheur et spécialiste du djihadisme, d'avoir été l'invité du 5-7. Merci et belle journée.